Il y a un petit peu moins de 2 ans, lors du culte de Pâques en 2021, que Aloïs d'ailleurs avait présidé à ce moment-là, j'avais partagé à ceux qui étaient là, à ce moment-là, quelques réflexions en prenant pour exemple les citronniers que j'avais plantés en partant de quelques pépins, des pépins de citron que j'avais pris sur un citron que j'avais consommé le jour même en 2018. Et par cette illustration, j'avais partagé le fait que ces pépins seraient restés au statut de pépins et donc d'ordures ménagères s'ils n'avaient pas germé et s'ils n'avaient pas été plantés en terre. Donc tout ça, je l'ai fait pour illustrer en fait les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean qui disent « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors 2 ans plus tard, ces citronniers n'ont toujours pas de fruits, mais ils ont bien grandi. Alors malheureusement, pardon ? J'ai des pépins, c'est sûr. J'ai des pépins. Alors malheureusement, un d'entre eux s'est asséché et il est mort il y a quelques temps, mais ça fait partie du jeu. Alors aujourd'hui, je me permets de reprendre l'illustration de ces citronniers pour parler cette fois de la souveraineté de Dieu. Alors quel rapport, vous allez me dire. Alors je vais remonter un peu à la genèse de mon idée en 2018, par un temps d'ennui et d'envie de tester des choses nouvelles, je me suis mis à éplucher 6 petits pépins de citron, des citrons premier prix que j'avais consommés le jour même, juste pour tester. Et j'ai ensuite laissé germer ces pépins pendant environ 3 semaines, et quand ils ont germé, je les ai mis en terre, d'abord dans un petit pot, et ensuite dans des pots de plus en plus grands. Et aujourd'hui, 5 ans et demi plus tard, j'ai 3 citronniers en pleine forme qui font à peu près ma taille. 1m30. Ils ont tenu le coup pendant ces 5 ans, malgré les aléas de la météo et malgré parfois ma négligence. Alors essayez de garder en tête cette illustration, on y reviendra en fin de message. Donc restez jusqu'au bout. Sans transition, je vous propose aujourd'hui un partage sur un passage qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 5. Nous allons donc lire Actes chapitre 5, des versets 12 à 42, et je vais lire dans la version du semeur. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, où on les déposait sur des lits ou des civières, pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par des mauvais esprits. Et tous étaient guéris. Alors, poussés par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison et, après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit « Allez au temple et là, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent et dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. De son côté, le grand prêtre arriva avec son entourage et ils convoquèrent le grand conseil et toute l'assemblée des responsables du peuple d'Israël. Ils ordonnèrent d'aller chercher les apôtres à la prison et de les amener. Les gardes s'y rendirent, mais ils ne les trouvèrent pas dans le cachot. À leur retour, ils firent leur rapport. « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Les sentinelles étaient à leur poste devant les portes. Mais quand nous avons ouvert le cachot, nous n'y avons trouvé personne. » Cette nouvelle plongea le chef de la police du temple et les chefs des prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer « Les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. » Aussitôt, le chef de la police du temple s'y rendit avec un détachement de gardes et ils ramenèrent les apôtres, mais avec ménagement car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les introduisirent dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. » Mais Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous, nous sommes le témoin de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du Grand Conseil et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres, puis il dit « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelque 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué, et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés, et l'on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. » Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie Jésus. Alors, le livre des Actes nous relate les débuts de l'Église primitive. Les premiers chapitres de ce livre retracent l'expansion de l'Évangile après que Jésus soit monté au ciel, et ça nous relate aussi l'apparition des premières persécutions. Alors, Luc, qui est vraisemblablement l'auteur du livre des Actes, nous raconte ici un de ces épisodes de la persécution. Les apôtres, ils prêchent l'Évangile et ils enseignent avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de zèle, et ils accomplissent des miracles. Ils guérissent les malades, ils chassent les démons. Et ces actions parfois spectaculaires que Dieu avait particulièrement suscitées pour rendre témoignage du ministère des apôtres, il a provoqué d'une part de très nombreuses conversions, puisqu'on parle ici de milliers d'hommes et de femmes dans les précédents chapitres, mais aussi d'autre part une opposition très ferme et une jalousie, notamment de la part des chefs religieux de l'époque. Les apôtres ont été censurés, ils ont été menacés, ils ont été emprisonnés et ils ont été battus. Et plus tard, dans le livre des Actes, on voit même que certains ont été tués. Alors à travers ce texte, je vous propose de voir la souveraineté de Dieu dans un premier temps. Et nous verrons ensuite que son plan, dans lequel il nous inclut, nous dépasse. Alors le livre des Actes suit directement dans le canon biblique les récits des évangiles. Donc nous voyons une certaine continuité assez logique entre le récit de la vie de Christ, donc les évangiles, et le récit de la vie selon Christ, suivi par les apôtres et par l'Église primitive. Si nous devions donc résumer les débuts de l'Église, nous pourrions dire que ces apôtres ont vraiment vécu dans la continuité directe du ministère de Christ, dans les enseignements, dans leurs actes, mais aussi dans la persécution qu'ils ont subie. Dans notre passage en particulier, on voit que les apôtres, ils dérangent un peu. Ils prêchent l'évangile, ils guérissent les malades, ils chassent les esprits mauvais, et ils attirent beaucoup de monde. Et ça ne va pas plaire aux chefs religieux, et ils vont les emprisonner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien heureusement. Dans la nuit, un ange du Seigneur va délivrer les apôtres en ouvrant les portes de la prison. Alors, ce n'est pas écrit exactement comment ça s'est fait, mais on voit plus tard que les huissiers veulent aller chercher les prisonniers le matin venu, la prison était soigneusement fermée et les gardes étaient bien devant, alors que la prison était totalement vide. Nous avons ici, je pense, une première manifestation de la toute souveraineté de Dieu. La prison n'a rien pu faire face à la puissance de Dieu. Alors c'est un épisode qui n'est pas isolé dans la Bible, hein, c'est pas quelque chose qui s'est reproduit une seule fois. On a eu des récits similaires d'intervention de Dieu dans des situations plutôt très très compliquées. On peut penser par exemple à Paul et Silas plus tard, qui seront aussi délivrés de prison. Ou encore Daniel dans la fosse aux lions, qui n'a pas été dévoré. Ou encore Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'ont pas été calcinés alors qu'ils étaient dans la fournaise. Ou encore aussi Jésus, ultimement, qui est ressuscité et qui est sorti du tombeau dans lequel il était enseveli. Dieu n'est limité ni par l'espace, ni par le temps, ni par les éléments, ni par les hommes, ni par les animaux, puisque tout ça fait partie de sa création et est sous son contrôle. Ce qu'on peut souligner ici, c'est que ces apôtres, ils avaient une mission et l'ange du Seigneur qui les a délivrés le leur a rappelé. Allez, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. Jésus avait aussi, lui, dit un envoi à peu près similaire en Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est là, en fait, la mission principale confiée, premièrement, aux apôtres, dans notre texte, durant le premier siècle, et par extension, à nous aussi, aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle. Les apôtres ont été sortis de prison pour cette mission, et ils vont obéir directement à ce commandement de Dieu, le lendemain même. Et c'est là qu'ils vont encore se faire arrêter et qu'on a voulu les tuer. Ils ont été menacés, mais ils ont continué et ils ont été arrêtés de nouveau. Mais dans ce deuxième épisode, un homme qui s'appelle Gamaliel, qui est donc quelqu'un de très respectable, respectable et respecté, en tout cas, parmi les docteurs de la loi, il va tenter de raisonner ses amis en disant que, de toute façon, si ces apôtres suivaient une doctrine humaine, toute humaine, ils seraient voués à disparaître. En revanche, s'ils suivaient une doctrine divine, rien ne pourrait les arrêter et il ne faudrait pas prendre le risque de lutter contre Dieu. Et il va réussir à convaincre le grand conseil de ne pas tuer les apôtres qui ne seront que frappés et relâchés tout en ayant reçu, bien sûr, des nouvelles menaces s'ils ne se taisaient pas. Alors Gamaliel, cet homme, n'est pas indiqué comme étant un homme de foi. Il va tout simplement avoir un raisonnement tout à fait logique basé sur les faits passés puisqu'il va prendre l'exemple de deux révolutionnaires qui étaient morts et dont les idées ont disparu ensuite. Donc il se disait que, puisque Jésus est mort, sa doctrine devrait disparaître toute seule, et que si cette doctrine ne disparaissait pas, de toute façon, il ne pourrait rien y faire. On pourrait dire que c'est un raisonnement en faveur, du moindre effort. On laisse faire, tant pis, de toute façon ça va disparaître, et puis si ça disparaît pas, pas grave, on ne pourra rien faire contre. Mais en cela, en fait, à travers l'acte de cet homme, Dieu a fait en sorte que les apôtres ne soient pas mis à mort. En fait, Dieu a utilisé un homme qui, au premier abord, n'est pas un croyant, pour sauver ses disciples. Du coup, dans notre texte de ce matin, par deux fois, Dieu intervient pour délivrer et sauver les apôtres. La première fois, par l'intermédiaire d'un ange, et la deuxième fois, par l'intermédiaire d'un homme qui pourrait tout à fait lui être hostile pourtant. Alors je vous invite à faire un rapide coup d'œil en arrière dans votre vie et vous poser la question, est-ce que Dieu est déjà intervenu de façon miraculeuse dans une situation qui vous semblait totalement sans issue? Est-ce qu'il est aussi intervenu au travers de personnes totalement inattendues, des personnes auxquelles vous ne pensiez pas? Alors, je pense que tout le monde peut témoigner là-dessus. Sachez, chers amis, que le Dieu qui a agi au temps des apôtres, alors qu'ils étaient dans des situations peu enviables, ce Dieu-là est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui dans nos vies. Ce Dieu souverain qui fait ce qu'il veut, bah, il connaît toutes nos situations. Il nous demande tout simplement à nous, qui le suivons, de le connaître de mieux en mieux et de le faire connaître au monde. Alors, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans nos vies à cause de l'Évangile, sachons que Dieu, contrairement à nous, n'est pas dépassé par ces difficultés. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je suis toujours un peu gêné de dire quand dans nos pays occidentaux, nous subissons de la moquerie à cause de notre foi. Je suis un peu gêné de me dire que je suis persécuté, alors qu'en fait, nous voyons nos frères et sœurs dans d'autres pays qui sont condamnés à mort par le simple fait d'être chrétiens. C'est gênant, certes, de se dire qu'on subit des petites choses par rapport à d'autres, mais ne nous culpabilisons pas. Le Seigneur est à notre écoute. Portons-lui nos fardeaux, tout simplement, en disant « Seigneur, je suis reconnaissant de pouvoir aujourd'hui encore avoir la liberté de te prier, la liberté d'aller à l'église, la liberté d'avoir une Bible, sans risquer quoi que ce soit. Mais voilà, tu vois ce que je subis vis-à-vis de ma famille, de mes collègues, de mes amis. J'aimerais leur parler de l'Évangile, mais je n'ose pas. Ou je leur ai déjà partagé ça, mais j'ai été raillé, moqué, exclu, ignoré. Dieu n'est pas indifférent à notre situation, même si elle nous semble bien légère par rapport à celle d'autres personnes. Il est souverain. Il peut tout. Ce Dieu souverain, il nous rend aussi également participants à son plan, ce plan qui dépasse notre petite personne, notre propre personne. Est-ce que vous êtes déjà un peu remonté dans le temps pour vous rappeler par quel moyen vous avez entendu le message de l'Évangile pour la première fois? À quel moment et par quel intermédiaire vous aviez pris la décision de suivre le Seigneur? Alors je vous encourage à vous reposer cette question, si vous avez déjà fait ce pas de suivre le Seigneur. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, sachez qu'il n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui est encore un jour de grâce, où Dieu laisse encore la possibilité à tout un chacun de venir à lui. Et c'est un exercice assez intéressant de remonter la chaîne de l'Évangile, entre guillemets, c'est un mot que j'ai inventé, hein, si on peut appeler ça comme ça. Qui m'a parlé de l'Évangile en premier? Et cette personne, par qui a-t-elle également entendu l'Évangile? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En effectuant cet exercice, si vous pouvez remonter assez loin, vous verrez se dérouler une infime partie du plan de Dieu dans votre vie. Alors pour ma part, j'ai pu remonter dans les années 1930, quand un missionnaire écossais est venu évangéliser à Madagascar et que mon grand-père paternel s'est converti. Il est devenu pasteur et ensuite il a partagé l'évangile avec sa famille. Je n'ai pas pu remonter plus loin. Mais une centaine d'années, c'est déjà bien. Mais ultimement, lorsqu'on y réfléchit bien, et en lisant notre passage de ce matin, nous voyons que nous sommes tous ici, en fait, parce que ces apôtres ont persévéré. Le téléphone a été oublié. Le téléphone de Jonathan. Ces apôtres, ils ont partagé sans relâche l'évangile, et finalement, ce message, il nous est parvenu à nous, ici, à Cré, un peu moins de 2000 ans après. Et ces apôtres, par qui ont-ils entendu le message du Christ, du salut ? Eh bien, ils ont entendu ce message par Jésus lui-même. Et ce message de salut nous est parvenu. Il est dans la Bible que nous avons, et il a traversé les millénaires. Je ne sais pas si on réalise souvent, mais c'est une chose extraordinaire. Gamaliel, cet homme qui a en quelque sorte sauvé les apôtres, avait dit dans notre passage au verset 38, « De deux choses l'une, ou bien leur projet et leur œuvre viennent des hommes, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Rien ne peut arrêter la progression de l'Évangile, puisque cela vient de Dieu, créateur du ciel et de la terre, et que rien et à qui rien ni personne ne peut résister, vous et moi y compris. » Alors en sachant ça, je ne veux surtout pas nous déprimer ce matin, mais notre vie à chacun, aussi valeureuse soit-elle aux yeux de Dieu et à nos propres yeux, notre vie est une poussière dans l'immensité de l'histoire. Je suis une poussière, tu es une poussière. Mais vous savez ce qui est merveilleux ? C'est que Dieu inclut chacune de ces poussières dans cette immense montagne qui représente son plan. Nous avons le privilège et la grâce de pouvoir prendre part au plan incommensurable de Dieu. Et nous avons un rôle de maillon, quelque part, à jouer. Les apôtres ont été un maillon dans la chaîne de transmission de l'Évangile. Ce couple de missionnaires écossais a été un maillon pour que moi, aujourd'hui, je puisse être là à vous parler. Chacun de nous est à son tour un maillon qui transmettra. Pardon. Chacun de nous est à son tour un maillon qui transmettra le message de l'Évangile à d'autres pour que eux aussi le transmettent à leur tour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, dans cette perspective, nous nous rappellerons et nous rendrons compte que le plan de Dieu non seulement peut nous dépasser lorsque nous ne comprenons pas tout, mais aussi et surtout, ce plan de Dieu dépasse notre propre vie et notre propre petit confort. Nous pourrons alors voir notre vie de disciples sous une autre perspective, comme ces apôtres. On les a emprisonnés, peu leur importait. On les a menacés de mort, peu leur importait. On les a battus, peu leur importait. Notre texte dit au verset 41 et 42, les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie Jésus. Ils venaient de se faire battre, et ils sont tout joyeux. Illogique. Est-ce que ce sont des illuminés ? Non. Ils savent que Dieu est souverain, et que son plan dépasse les vies personnelles de ses disciples. Alors peu importe les circonstances, ils se réjouissent, et ils font progresser l'Évangile. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être plus facile à dire qu'à vivre, qu'à faire. On est d'accord. Au milieu du rejet, au milieu des brimades, des coups peut-être, difficile de se dire que Dieu nous voit, que Dieu nous comprend, qu'il comprend notre peine. Et pourtant, c'est le cas. Il entend nos peines, il entend nos difficultés, aussi insurmontables qu'elles nous paraissent. Il est capable de nous sortir des situations les plus improbables. Rappelons-nous pour cela des choses extraordinaires qu'il a déjà fait dans nos vies. Je suis sûr qu'on a tous au moins un témoignage à donner par rapport à ça. Alors s'il l'a fait par le passé, dans la vie de ses apôtres, s'il l'a fait par le passé dans nos vies, alors est-ce qu'il serait incapable de le faire dans le futur ? Non, il est et il restera tout-puissant. Alors pour terminer, j'aimerais juste revenir sur mes citronniers dont je vous parlais au début. Ce que j'ai eu à faire avec eux, c'était dans un premier temps de mettre les pépins à germer, ensuite de les mettre en terre et de m'en occuper aussi régulièrement possible. Mais je n'avais aucune maîtrise sur leur germination ou leur croissance. Je ne sais pas du tout quel pépin va germer, quel autre va pourrir, quel plant va grandir ou quel autre va mourir. J'avais fait germer 6 pépins. Il y en a 5 qui ont vraiment germé. Je les ai plantés. Il y en a un qui est mort en étant tout petit. Il y en a un autre qui s'est asséché. Il m'en reste 3. Donc je n'avais aucune maîtrise par rapport à ça. J'y ai apporté du terreau. J'ai apporté de l'eau, j'ai apporté de l'engrais, mais je n'avais aucun pouvoir pour faire pousser les feuilles ou faire pousser les branches. Et je n'avais aucune maîtrise des racines qui poussent dans le pot, et je ne pouvais pas non plus lutter contre la météo. Et pourtant, ils ont bien grandi. Je vais faire un parallèle bien imparfait entre ces citronniers et notre vie. Nous avons notre part à faire. Elle se résume dans cet envoi de Jésus, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Faire de nous-mêmes des disciples tout d'abord, et ensuite faire des disciples parmi les nations, ou en termes plus clairs, partager l'évangile à notre entourage, pour qu'eux aussi suivent le Christ et partagent leur évangile à leur tour, la chaîne de l'évangile. C'est là notre part. Tout le reste est entre les mains de Dieu, qui lui seul peut maîtriser nos circonstances.
Par cet envoi, il nous fait prendre part à son plan merveilleux. Il me rend participant à la croissance de mes citronniers, sans que j'aie à maîtriser tout le processus de développement de la plante. Ma part est de planter les pépins et d'apporter de l'eau et des nutriments nécessaires. Sa part est de faire prendre racine et de faire croître. Dans notre récit, la part des apôtres était d'annoncer la parole de vie, et la part de Dieu était d'accroître son Église et de prendre soin de ses disciples.